Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Merci Mémona pour la présentation. Merci à l'Hospice Comtesse de nous accueillir aujourd'hui. Merci à l'ensemble des organisatrices et organisateurs de cette journée d'accélération autour des technologies immersives au service du patrimoine que nous nous faisons, Pauline et moi-même, un plaisir d'ouvrir aujourd'hui. Alors, puisque la notion d'immersion sera au cœur des discussions et des démonstrations d'aujourd'hui, nous vous proposons en guise d'introduction une petite expérience immersive. Alors celle-ci, une fois n'est pas coutume, n'utilisera pas la technologie pour ce faire, mais plutôt cette puissante capacité humaine que nous appelons communément l'imagination. Alors nous invitons à un petit voyage mental dans un autre temps et en un autre lieu. Imaginez donc, nous ne sommes plus le 16 décembre 2025, mais le mercredi 12 juin 1448. Le ciel est bleu, le soleil brille et le fond de l'air doux annonce déjà l'été à venir. Nous ne sommes pas assis dans cette salle de l'Hospice Comtesse qui alors n'était pas un musée, mais nous déambulons sur la place du marché de Lille en ce milieu du 15e siècle, au cœur d'une ville médiévale, vivante, animée, bruyante, colorée. Autour de nous, la population lilloise se presse d'étal en étal, au cri des commerçants ailant le chaland et du bruit des animaux et des chariots qui évoluent lourdement sur les pavés engrais. Joyeux pêle-mêle que ce marché médiéval, au cœur de ce qui deviendra la Grand Place et dont les échoppes, mobiles et temporaires, couvertes de tentures aux couleurs variées, sont réparties de manière concentrée et un peu chaotique au centre de cet espace ceint des façades des maisons à pans de bois. Les cloches de Saint-Étienne sonnent, annonçant les célébrations religieuses du milieu de la matinée, alors qu'au même moment, le son d'une trompe attire notre attention vers la halle échevinale, siège de l'autorité urbaine, située de l'autre côté de la place, là où se trouve aujourd'hui l'hôtel Carlton, pour ceux qui connaissent. Son nouveau beffroi, où trône l'horloge publique, en indique l'emplacement au loin. Nous nous en approchons donc et rejoignons une petite foule agglomérée dont les yeux sont levés vers le petit balcon sur la façade, appelé la bretèche, où se tient un personnage connu de tous, le crieur public. Le voilà qui proclame à l'Assemblée que sur décision de Philippe, par la grâce de Dieu, duc de Bourgogne et comte de Flandre, ceux qui seront trouvés en ville en possession d'armes, telles que des haches d'armes ou de longues dagues, se verront infliger une amende de 60 sous. Elle n'était auparavant que de 10 sous. Le brouhaha des commentaires précède la dispersion de la foule, alors que le crieur quitte la bretèche pour retourner à l'intérieur de la halle, marquant la fin de sa proclamation et, pour nous, de ce petit voyage temporel. Alors, cette brève immersion mentale et imaginaire dans ce fragment du passé médiéval de Lille, chacun et chacune, ici, l'avait imaginé plus ou moins différemment de vos voisins et voisines. Cela est normal, puisque le Moyen-Âge, votre Moyen-Âge, n'est pas tout à fait le nôtre. Il n'est pas tout à fait non plus celui de celles et ceux qui vous entourent. Le passé est en effet un matériau culturel et à ce titre malléable, transformable, adaptable et donc polymorphe. Et le Moyen-Âge des historiens n'est pas celui du cinéma, n'est pas celui du spectacle vivant, n'est pas celui du jeu vidéo, ni même tout à fait celui des musées et donc de leur public. Comment dès lors la recherche peut-elle transmettre et rendre accessible cette histoire qu'elle tend, c'est là son sacerdoce, à retracer le plus fidèlement possible et rendre accessible cette histoire dans toute sa complexité humaine sans perdre, ce faisant, la profondeur scientifique qui fonde sa valeur. De même, comment le musée, inscrit au sein de l'espace public, peut-il devenir non seulement le lieu, mais aussi l'acteur de cette transmission ? Comment ce moment de vie, certes anecdotique, mais exemplaire, du quotidien des villes à la fin du Moyen-Âge que nous avons tenté succinctement de vous faire parvenir, pourrait-il vous être transmis, que vous soyez chercheur, conservateur de musée, guide ou visiteur, et cela sous une forme qui, en même temps, soit partagée, accessible et facilement appréhendable. Ce sont là des questionnements majeurs qui sont au cœur du projet Insula, coordonné par Pauline, doctorante en histoire médiévale à l'Université de Lille, et qui se veut être à l'interface et à la jonction entre recherche et médiation.
En effet, Insula est au départ un projet de recherche qui a pour origine la thèse CIFRE que je réalise depuis 2023 pour la direction du patrimoine culturel de la ville de Lille et le laboratoire IRIS. Son principal dessein est alors de renouveler la compréhension de la place publique à Lille au Moyen-Âge avec un double objectif. Tout d'abord, établir une chronologie des différentes phases d'occupation de cet espace dans les derniers siècles de la période médiévale, soit entre les XIIIe et XVe siècles, tenter ensuite de comprendre les perceptions et expériences sensibles et sensorielles des communautés urbaines qui y transitaient. Ce travail s'intéresse donc à un point central de la ville, tant dans sa géographie que dans les pratiques quotidiennes, la place du marché. Ce vaste espace d'environ 20 000 m² représentait 1% de la superficie totale de la ville médiévale intramuros. Comprenant les actuelles grandes places et places du théâtre, il accueillait différents bâtiments essentiels et symboliques tels que la halle échevinale, des administrations princières, des édifices religieux et des espaces de commerce et de change monétaire. Elle est, cette place, le décor de nombreux moments de vie, dont des marchés hebdomadaires, des processions religieuses, des tournois, des festivités ou encore des exécutions judiciaires. En somme, il s'agissait d'un véritable concentré d'urbanité. Pourtant, de cette place, il ne reste rien, ou presque. Si l'on prend un peu de hauteur, la forme de celle-ci est toujours lisible aujourd'hui, ce qui nous permet d'en appréhender les dimensions. Au sol, 140 pavés du XVe siècle sont, eux aussi, encore visibles in situ, sur l'actuelle Grand Place, mais rarement perçus, ce qui n'aide que peu le passant comme le chercheur à interpréter ce lieu dans sa morphologie passée. De même, aucune iconographie connue ne la représente au Moyen-Âge, et la carte la plus ancienne qui nous soit parvenue date de 1572. Il faut enfin préciser que nous possédons peu de travaux scientifiques, puisque la dernière étude historique d'ampleur sur la ville de Lille fut réalisée dans les années 70, et les dernières fouilles archéologiques de ce site datent de 1989. Il y avait donc là un vide de connaissances à combler, alors même que la documentation archivistique médiévale est, à contrario, extrêmement foisonnante. Mais outre l'intérêt scientifique, la convention CIFRE instituait de facto un partenariat entre les services patrimoniaux de la ville de Lille et l'université. Il fallait donc trouver les moyens d'en transmettre les résultats tant au musée qu'à ses publics. L'idée motrice, unanimement partagée, était de faire sortir la recherche du laboratoire et du seul microcosme universitaire à travers la conception d'un ou plusieurs outils de médiation. Cependant, si cette intention était louable, deux questions restaient en suspens. Quelle forme devraient prendre ce ou ces dispositifs et leur contenu? Et comment faire en sorte que cette médiation ne dénature pas le caractère scientifique du travail dont elle devra rendre compte? De ces deux problématiques, une chose était certaine. Le manuscrit de thèse, objet traditionnellement attendu à l'issue d'un parcours doctoral, représentait ironiquement l'antithèse de ce que nous souhaitions développer. Dans le même temps, envisager cette médiation comme un simple résumé de celui-ci revenait à en édulcorer la profondeur. Il fallait donc trouver un mode de présentation différent des résultats, c'est-à-dire un objet scientifique qui soit parfaitement intégré à la recherche et représentatif de la thèse, voire issu de celle-ci, et qui soit facilement appréhendable et interrogeable par un public le plus large possible qui aille du spécialiste au touriste. Nous sommes donc partis de l'idée que la place médiévale du marché de Lille, avant de devenir un objet d'étude historique et donc une abstraction intellectuelle, fut d'abord un espace concret, vécu et perçu, des aspects que je cherche à étudier et à mettre au jour. Or, il nous semblait que l'apport majeur et l'originalité de mon étude se cristallisaient justement dans cette approche sensible, révéler et donner à voir ce qui n'est plus visible, ou en tout cas plus directement. Pour ce faire, à partir de mes analyses et des données historiques et archéologiques en notre possession, nous avons pris le parti de concevoir une restitution numérique 3D de ce lieu disparu. Cette décision fut l'acte de naissance du projet Insula, qui put réellement prendre son envol grâce au soutien financier du CPER Enhance, financé par la région de France et coordonné par la Fédération de recherche sciences et cultures du visuel, ainsi qu'à l'expertise technique, méthodologique et scientifique de ses ingénieurs, dont Jérémy fait partie en tant que spécialiste de la restitution appliquée aux sciences historiques.
Alors, en effet, lorsqu'en novembre 2023, Pauline et moi nous rencontrons pour la première fois pour discuter de son projet, alors en gestation, la restitution me paraît être le médium idéal et adéquat en mesure de répondre à l'ensemble des enjeux et besoins soulevés. Mais alors, allez-vous me dire, qu'est-ce qu'une restitution ? Alors, une restitution, le mot restitution est un terme qui désigne non seulement la représentation en image d'un artefact, souvent altéré ou disparu, dans un état antérieur à celui qu'il a aujourd'hui, mais il s'agit aussi d'un processus rigoureux et complexe qui permet la construction de cette image sur des bases et des critères qui fondent sa valeur scientifique. Nous sommes donc en présence d'un outil méthodologique de recherche et de l'objet résultat de cette démarche. Ce dernier n'a de plus pas qu'une valeur illustrative, mais bel et bien aussi démonstrative. Il est en réalité le support et le reflet des connaissances acquises, des hypothèses formulées et des interprétations forgées à partir des données historiques et de la collaboration scientifique à un instant donné de la recherche. C'est ce que l'on peut appeler un modèle de connaissances, c'est-à-dire la mise en relation d'un ensemble de blocs de connaissances éparpillés et de nature hétérogène, sous la forme d'une représentation concrète et unifiée de l'objet étudié. Sur cette base, la plasticité propre à la création graphique permet aux chercheurs de tester différentes hypothèses d'assemblage, faisant de la restitution un outil d'expérimentation et un vecteur d'analyse critique qui n'est donc pas qu'un résultat de la réflexion, mais la nourrit en retour, engendrant par là du savoir. Or, cette représentation visuel de l'objet d'étude a la particularité et l'avantage d'être facilement transférable en vue d'une valorisation grand public. D'objet scientifique, elle peut être transformée, avec quelques adaptations et accompagnée d'un appareil critique spécifique, en un objet de médiation. Celui-ci peut alors être associé à différents dispositifs technologiques intégrant au choix divers niveaux d'interaction et d'immersion. Ainsi, dans le cadre du projet Insula, la restitution répondait tout à fait à ce double objectif que vous évoquez, Pauline. Il est tout d'abord pleinement mobilisé dans son travail de thèse, dont elle est un moyen et une émanation de sa recherche, et dans le même temps, elle synthétise en une image, facilement accessible et directement appréhendable, la majeure partie de ses résultats. Cette démarche constitue donc, intrinsèquement, un pont naturel entre recherche et médiation, par une approche et une expérience sensible et concrète.
En effet, cette voie de la concrétisation sensible, dans laquelle nous nous étions lancés, d'abord dans une visée illustrative, nous a très vite convaincus de son potentiel réflexif, expérimental et communicationnel. C'est pourquoi nous avons assez rapidement souhaité aller au-delà de la représentation visuelle pour y adjoindre une dimension sensorielle supplémentaire par la composition et l'intégration d'un paysage sonore. L'intention est ici de mettre de la vie dans cette restitution et d'éviter de donner l'impression que cette place du marché n'était qu'une coquille vide. D'autant que, à nouveau, les sources lilloises sont extrêmement riches et nous renseignent sur les sonorités de la ville avec deux typologies d'indices. D'un côté, Une documentation qui fait état de pratiques et de gestes qui laissent deviner les bruits et les sons qu'ils génèrent. De l'autre, la retranscription de mots prononcés sur cette même place de marché, ceux du crieur public et de ses déclarations, et que nous avons d'ores et déjà évoqués au début de notre intervention. Bien entendu, il ne s'agira pas simplement d'inventer une bande-son purement fictionnelle. Cela demandera de réfléchir aux pratiques de l'espace et aux sons qui en émanent, de questionner cette spatialité et la manière dont le son s'y diffuse, de s'interroger sur la diction des personnes du XVe siècle, sur l'art de proclamer en public, sur la réactivité de la foule, etc. Autant de problématiques qui nous occuperont ces prochains mois. Notre ambition est véritablement de proposer une expérience où il devient possible d'éprouver la ville médiévale dans cette même démarche, décrite par Jérémy, alliant recherche et diffusion à grande échelle. Pour cet aspect particulier et innovant du projet, nous sommes d'ailleurs les heureux lauréats d'un financement du PEPR ICAR qui nous accueille aujourd'hui dans le cadre de leur appel dit petit projet. Jusqu'à présent, nous vous avons néanmoins essentiellement parlé du fond, du contenu de cette médiation qui, à partir des images et des sons produits par la recherche, prendra la forme d'une expérience virtuelle, immersive, sonorisée de la place médiévale du marché de Lille au milieu du XVe siècle. Plus précisément, nous avons choisi la date du mercredi 12 juin 1448, jour de marché où fut déclamée par le crieur une des 7 proclamations encore conservées. Mais qu'en sera-t-il du ou des dispositifs de présentation de celle-ci? Il s'agit ici d'une interrogation centrale qui engage aussi bien l'équipe de recherche que les institutions partenaires et fait donc l'objet de discussions. Deux constats, encore, nous ont guidés. Tout d'abord, si le musée est un lieu ouvert à toutes et à tous, tout le monde ne va pas au musée. Ainsi, comment rendre notre expérience accessible au plus grand nombre, même ceux qui ne fréquentent pas ces lieux? Ensuite, puisque la thèse aborde un espace spécifique, toujours perceptible aujourd'hui mais rarement perçu, est-il possible de recréer un lien entre la trace de ce qui a été, de ce qui est et de ce qui a pu être hier? En l'état de nos réflexions, deux dispositifs de médiation complémentaires sont envisagés. Le premier, sans doute le plus classique, sera positionné ici même dans le musée de l'Hospice Comtesse et prendrait la forme d'une table numérique tactile. Elle permettrait une déambulation virtuelle sur la place, dont la représentation serait interrogeable via un système interactif. Les visiteurs pourraient dès lors aller chercher les informations dont ils auraient besoin, mais sans contrainte. L'idée étant que l'expérience sensible primerait afin de générer naturellement de la curiosité. Le second dispositif serait placé en extérieur, in situ. Il serait accessible grâce à des lunettes de réalité virtuelle low-tech en carton et un smartphone. Et il permettrait à celles et ceux qui déambulent de s'immerger dans un fragment de la ville médiévale. Il s'agirait ici de reconnecter spatialement les actuelles grandes places et places du théâtre et la place du marché du XVe siècle, en tout cas sa restitution numérique, tout en faisant état des dernières avancées de la recherche. Il donnerait à voir et à entendre un espace virtuel où passé et présent ne se confondent pas, mais se superposent. Nous pourrions alors observer et partager un même Moyen-Âge, celui des historiens. Il ne manquera sans doute pas d'étonner, d'interroger, de faire parler, créant, nous l'appelons de nos voeux, un pont plus direct entre le monde de la recherche historique universitaire et la société dans tout son ensemble et toute sa diversité. Merci pour votre écoute.
Bonjour, merci pour cette passionnante présentation. La question était sur le tout dernier point, sur les dispositifs de lunettes en carton. C'est possible de décrire un petit peu plus comment ça se passerait? C'est-à-dire que ce serait n'importe quel endroit de la place, un endroit précis
C'est un peu compliqué de rentrer dans le détail parce que, comme on l'a mentionné dans l'intervention, on est sur des discussions qui sont encore en cours, qui vont dépendre. Il y a aussi une adéquation avec l'usage de l'espace. Il y a un projet de piétonnisation de la place. Donc voilà, nous, on n'a pas encore fixé l'ensemble de ces points. On n'a pas encore fixé le ou les lieux de visualisation. Ça, c'est pas encore décidé et c'est pas encore le travail qui nous occupe actuellement. c'est des réflexions qui sont dans les cartons, donc on testera ça une prochaine fois pour une prochaine journée d'accélération, sans doute.
Mais après, juste,
peut-être que l'idée, c'est de positionner au moins là où il y a les 140 pavés du 15e siècle qui sont toujours présents sur la Grand Place et que peu de gens voient ou perçoivent. Donc ça permet aussi de mettre en valeur ce petit patrimoine qui reste de cette place du 15e.
À voir.
Bonjour. Vous avez mis l'accent sur l'aspect sonore aussi, mais de vos deux dispositifs que vous avez mis en évidence, en fait, l'aspect sonore va être très diminué en fait par l'expérience de l'utilisateur, non ?
Bah, dans le musée, en tout cas dans un dispositif qui serait dans le musée, l'aspect sonore peut être intégré assez facilement. Après, c'est vrai que in situ, la question se pose. Il faudra voir les technologies si elles permettent sur le smartphone d'intégrer en plus du son. C'est des questions, mais c'est pour ça que sur la question technologique, il y a encore pas mal de choses à régler et à observer, et qu'on est encore sur de l'intention plus que sur de la concrétisation.
Et à nouveau, tout ça va aussi, la diffusion du sonore, voir si c'est pertinent, c'est-à-dire est-ce qu'on a encore des circulations de voitures, faire des tests sur place, comment va se passer la diffusion à l'intérieur de la maison de carton. On est sur un projet en cours. Donc à nouveau, par contre, ça nous paraît essentiel de développer cet aspect puisqu'on en a la possibilité scientifique. Donc ça serait dommage de passer à côté de cet usage-là pour le projet Insula.
Merci pour la présentation. C'est un peu délicat d'utiliser les cartons, des systèmes de biocasse carton, parce que vous avez des contraintes physiologiques qui sont importantes. Pourquoi vous ne préférez pas utiliser directement le smartphone en vision, en déplacement, et vous pouvez mettre le son à ce moment-là, ou avec des tablettes, parce que tout le monde n'a pas des tablettes. Parce qu'évidemment, vous avez une contrainte. Il n'est pas recommandé par l'Agence nationale de sécurité sanitaire d'utiliser de tels dispositifs qui sont quand même très contraignants au niveau physiologique et au niveau sensorimoteur, pour la cohérence sensorimoteur. On pourra en reparler en détail si vous voulez.
Oui, on est preneur d'informations sur ce sujet auquel on n'avait pas encore pensé. On sera preneur. Merci.
On va prendre une dernière question.
Est-ce que vous comptez intégrer un retour usage en fait dans les tests des dispositifs, c'est-à-dire tester les deux dispositifs, enfin avoir cette phase, ce sera un après, enfin ce sera une nouvelle thèse, hein, dans l'étape après, une fois qu'il y aura eu des choix potentiels de dispositifs, peut-être tester plusieurs versions, est-ce que ça c'est intégré ou...
Oui, alors je me permets de remontrer ton. Il y a tout un processus d'aller-retour constant, à la fois pendant la conception des images, dans lequel on est actuellement, par ailleurs, on est en train de réfléchir à des groupes pour analyser ces premières images qu'on vous a montrées ici. Et puis ça sera la même chose pour les dispositifs de médiation. En fait, à chaque instant du processus de conception de ces images et de ces sonorités, on a toujours cette boucle, ce système d'aller-retour pour revenir constamment sur ce qui a été fait, soit selon des expertises, soit selon des tests utilisateurs. Voilà, pour justement ce qu'on mentionnait à l'instant, ces questions de sonorité, est-ce que c'est intéressant sur place d'avoir la sonorité ou pas. Donc voilà, on va avoir ces processus-là qui sont en cours, qui débuteront en janvier pour les premières images.
Après, pour la question juste des images et de la restitution, pour faire pas mal de conférences grand public où on présente des résultats de restitution, en général, ça attire énormément le grand public qui est très intéressé, et pas juste par le résultat qui peut être très esthétique, mais aussi par pourquoi et comment on obtient ces images, et donc par véritablement le travail scientifique qu'il y a derrière. Et le public est très friand de ça, de l'enquête en fait qui a été menée, et de ce travail d'enquête. Et donc faire une médiation autour de l'enquête, et de comment l'historien, l'archéologue travaille pour en arriver à ces images, c'est vraiment une piste, une voie royale en fait pour la médiation qui intéresse beaucoup le public en général.
Et qui et qui a déjà été testé, puisque en fait les premières images ont aussi été au centre d'une conférence qui a été donnée il y a 2 mois, et on a vu justement tout l'intérêt pour notamment la source, de quels matériaux on part en tant qu'historien pour arriver à des images numériques 3D, la place du doute, la place de l'hypothèse, tout ça. Donc, voilà.
Merci à vous deux. Si jamais il y a des questions. Alors, on va enchaîner ensuite.